Dans notre société, le mot « église » n'a pas bonne presse, et pour de bonnes raisons. En effet, dans la conscience populaire, le mot « chrétien » évoque autant l'amour du Christ que les croisades, l'inquisition et des exécutions cruelles. Pourtant, ce ne sont pas les persécutions sauvages qui ont freiné l'expansion du christianisme. Elles sont certes désagréables, mais les blessures qu'elles infligent sont physiques et donc temporaires. Tertullien, père de l'Église, a dit « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». La plus grande menace pour l'Église du Christ n'est pas l'animosité des non-croyants, mais les faux enseignements. Les religions du monde ne présentent aucun danger pour le christianisme. Par contre, les imposteurs au sein de l'Église sont un poison spirituel et un danger mortel aux conséquences éternelles. Il n'est donc guère étonnant que Jésus ait mis ses disciples en garde contre les apostats quand il leur a dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et dans l'exhortation que l'apôtre Paul adresse aux responsables de l'église d'Éphèse, il fait écho aux paroles du Seigneur quand il dit « Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces glisseront parmi vous » et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un, et parfois même avec larmes. En fait, l'ensemble du Nouveau Testament exhorte les croyants à se prémunir contre la nature trompeuse des faux enseignements déguisés en vérité chrétienne. Ces mises en garde étaient et sont toujours à l'ordre du jour. En effet, vers la fin du 1er siècle, quand l'apôtre Jean rédige le livre de l'Apocalypse, seules 2 des 7 églises auxquelles il s'adresse sont encore pleinement fidèles à l'enseignement de Jésus-Christ. Les 5 autres, à un degré ou à un autre, étaient tombés dans le piège de l'erreur doctrinale introduite par des imposteurs, ce qui ne manquait pas d'avoir des conséquences morales désastreuses. C'est avec sévérité que Jésus leur ordonne alors de se repentir, de combattre les mensonges, de tenir ferme et d'expulser les apostats de leur sein. 25 ans plus tôt, quand Jude écrit sa lettre, et comme Paul et Pierre l'avaient prophétisé, les enseignants de mensonges avaient déjà pénétré dans les assemblées chrétiennes et la lutte pour défendre la vérité était engagée. C'est ce qui explique pourquoi Jude consacre la totalité de sa lettre à parler des hérétiques, et s'il décrit leur caractère, c'est pour aider les croyants à les reconnaître. Il désire que ses lecteurs résistent fermement aux apostats qui menacent leurs assemblées, mais aussi et surtout qu'ils soient tous débusqués, dénoncés et expulsés. Et pour bien montrer combien la situation est grave, il utilise un langage violent allant jusqu'à maudire les faux enseignants. Parce que l'épître de Jude est la dernière du Nouveau Testament, elle joue un peu le rôle de vestibule du château que Jean a construit quand il a écrit l'Apocalypse. Ce dernier livre du Nouveau Testament met en scène la destruction inévitable de tout ce qui s'oppose à Dieu, tandis que Jésus, roi des rois et seigneur des seigneurs, dans son ultime victoire, établit la vérité à tout jamais. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, Jude a écrit sa lettre dans les années 68 à 70 de notre ère, peu de temps après que Pierre ait terminé sa seconde épître. Ces deux lettres, qui sont étroitement liées, contiennent plusieurs descriptions pratiquement identiques des imposteurs religieux et de leurs fausses doctrines. De plus, quand Pierre fait allusion aux apostats, il utilise le temps du futur, tandis que Jude écrit au présent. Cette cohérence entre les deux lettres conduit à se demander si l'épître de Jude n'est pas la suite de deux Pierre et si toutes deux n'ont pas été adressées au même groupe de croyants juifs. Dans ce cas, ces derniers ont pu constater que les mises en garde prophétisées par Pierre étaient en train de s'accomplir devant leurs yeux. Bien que l'identité exacte des enseignants de mensonges dont parle Jude reste inconnue, tout porte à croire qu'il s'agit déjà d'une forme élémentaire du gnosticisme qui se développera dans toute sa laideur au second siècle et qui, dans les domaines de la doctrine et de la morale, constituera la principale hérésie que les responsables d'assemblées chrétiennes auront à combattre. Malgré la dureté des propos de Jude à l'encontre des apostats, ceux-ci n'enseignaient pas encore d'une manière systématique les deux croyances fondamentales qui, plus tard, détruiront beaucoup d'assemblées chrétiennes et qui sont l'obtention du salut au moyen d'une connaissance secrète et l'opposition entre deux êtres appelés Dieu, l'un qui est bon et l'autre qui est malveillant et qui a créé le monde matériel. Cela dit, les imposteurs auxquels Jude fait allusion sont dans le tracé de la ligne gnostique du second siècle. On trouve chez ses précurseurs, sous une forme encore peu développée, cinq caractéristiques qui composeront plus tard cette hérésie. Je les cite. Importance de la connaissance sans lien avec une conduite morale, arrogance à l'encontre des responsables d'église qui sont considérés comme non éclairés, grand intérêt pour les anges et les esprits, la création de divisions pour s'imposer, immoralité grossière sans aucune honte. Quant aux faux enseignants contre lesquels Jude s'élève, il les accuse de nier que Jésus-Christ soit le Seigneur, de mener une vie licencieuse de péché, de se rebeller contre l'autorité, de se laisser aller à leurs penchants mauvais en satisfaisant leurs convoitises, de se préoccuper de faire de l'argent, de causer des divisions dans les églises, de se plaindre et de se vanter. Ces hommes n'étaient peut-être que l'avant-garde gnostique au niveau de l'enseignement doctrinal, mais dans le domaine moral, ils étaient déjà tout aussi pervertis que les vrais gnostiques qui les suivront. Pour cette raison, dans sa courte lettre, Jude ne se concentre pas tant sur le faux enseignement des apostats que sur leur style de vie et il n'est pas tendre avec eux puisqu'il utilise 6 fois le mot « impie » et ses dérivés, bien que ceux-ci soient traduits différemment selon les versions. La dénonciation du caractère dépravé de ces hommes suffit pour qu'on les reconnaisse comme des imposteurs religieux, car, comme Jésus l'a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. En mettant à nu la vie corrompue des apostats, Jude n'a plus besoin de réfuter leurs croyances, car aucun croyant authentique ne suivra l'enseignement d'un homme pervers, rebelle, égocentrique et arrogant. L'image que donne Jude de ces hommes révèle l'étendue de leurs vices. Comme des prédateurs, ils se glissent furtivement et sans faire de vagues parmi le peuple de Dieu qui souvent, il faut bien le dire, n'est pas très méfiant. Aujourd'hui, c'est encore pire. La philosophie pernicieuse, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil, a malheureusement conquis beaucoup de croyants. Une fois installés et acceptés dans l'Église, ces bêtes de proie s'emploient à faire un travail de destruction. Jude dit qu'ils travestissent en débauche la grâce de notre Dieu. Au lieu de rejeter les passions des gens de ce monde, ils enseignent de les épouser corps et âme. Ils sont tellement corrompus que Jude les compare aux anges déchus, aux hommes pervers et violents des villes maudites de Sodome et Gomorre, à Caïn, qui fut le premier meurtrier de l'histoire humaine, à Balaam, le prophète rapace, et aux rebelles juifs dirigés par Corée. Toutes ces histoires et ces personnages se trouvent dans les pages de l'Ancien Testament. Ces apostats dépassent les limites, car dans leur arrogance, ils vont même jusqu'à insulter les êtres glorieux du ciel, ce que même le puissant archange Michel ne s'est pas permis. Jude décrit la corruption des apostats au moyen d'un langage dynamique et par des métaphores choquantes. C'est ainsi qu'il écrit que leur présence trouble vos repas communautaires, ils se remplissent la panse sans vergogne et ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que des vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont deux fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Il est quelque peu ironique de constater que Jude, l'homme qui condamne avec la plus grande véhémence tous les hérétiques présents et à venir, porte le même nom que le plus notoire de tous les infidèles, le traître Judas Iscariot. C'est aussi pour cette raison que les traductions françaises donnent le nom Jude plutôt que Judas à l'auteur de cette lettre. Comme je l'ai déjà dit, ces deux formes sont issues du même nom hébreu Judas. Je commence maintenant à lire la lettre de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Verset 1. Jude ou Judas est un nom courant dans le Nouveau Testament. Deux des disciples du Seigneur s'appelaient Judas, Judas Iscariot et Judas, fils de Jacques. C'est aussi chez un certain Judas de Damas que peu après sa conversion, l'apôtre Paul a rencontré Ananias, un homme qui lui a permis d'entrer dans les cercles chrétiens. Un autre Jude, aussi appelé Barsabas, était l'un des responsables de l'église primitive. Il est allé avec Paul, Barnabas et Silas porter une lettre de la part du concile de Jérusalem aux croyants d'Antioche. Il y avait aussi un Judas de Galilée qui a fondé le parti des Zélotes et qui a déclenché un soulèvement contre les Romains. Cependant, le Jude qui a écrit la lettre, qui porte son nom, ne correspond à aucun de ces hommes, car il est le frère de Jacques qui présida le concile de Jérusalem, et tous deux étaient les demi-frères de Jésus. La salutation de Jude est similaire à celle de son frère. Bien qu'il ne fût pas un apôtre, sa situation familiale par rapport à Jacques et Jésus lui conférait à n'en pas douter une position de prestige et d'autorité dans l'Église primitive qui lui valait d'être écoutée. C'est sans doute l'une des raisons pour laquelle Dieu l'a choisi pour écrire une lettre inspirée qui met les croyants en garde contre les dangers des imposteurs religieux. Jude se présente comme le serviteur de Jésus-Christ. En fait, il utilise le mot grec qui désignait un esclave ordinaire. Dans le monde gréco-romain, l'esclavage était tellement répandu que la moitié de la population de l'Empire était asservie à l'autre moitié. L'esclave ne possédait aucun droit parce qu'il était la propriété de quelqu'un, comme du bétail. Pas mieux, ce qu'il fait qu'il devait une soumission totale et absolue à son maître, sous peine de châtiment pouvant aller jusqu'à la mort. C'est de cette manière que Jude conçoit sa position et sa relation par rapport à Jésus, son Seigneur. Cette identification de Jude à un esclave est bien choisie car elle établit un contraste bien marqué entre lui et les enseignants de mensonge. Alors que ces derniers méprisaient Dieu et rejetaient le Christ Seigneur, Jude est son esclave reconnaissant. Et pourtant, durant au moins une partie du ministère de Jésus, ses frères ne croyaient pas qu'il était le Fils de Dieu, et les membres de sa famille se sont même opposés à lui. On voit donc qu'il était tout à fait possible de grandir en compagnie de Jésus sans reconnaître qui il était vraiment. Le changement qu'avaient subi les frères de Jésus, et même sa mère, est résumé par l'apôtre Paul quand il écrit « Autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière humaine, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. » Jacques et Jude reconnaissaient désormais leur demi-frère Jésus comme le Seigneur de gloire et leur relation familiale avec lui comme sans valeur particulière. Il a fallu que ces deux hommes viennent au Christ en tant que pécheurs perdus comme doivent le faire n'importe quel autre être humain. Très tôt, dans l'Église des premiers siècles, on a commencé à vénérer les membres de la famille humaine de Jésus comme s'ils étaient des gens sacro-saints qui pouvaient accorder des grâces. Mais c'est de la pure superstition. Ils étaient comme vous et moi, et nous devons tous nous humilier devant le Seigneur de gloire pour recevoir le pardon de nos péchés. Marie, la mère de Jésus, était une personne remarquable par son humilité, et il est bien vrai que sa cousine Élisabeth lui a dit « Béni es-tu entre les femmes !» Mais notez bien qu'elle a dit « entre les femmes » et pas « au-dessus » ou « plus que » comme le traduisent certaines versions protestantes. De plus, dans ce qu'on appelle le Magnificat et que nous rapporte l'Évangile, Marie appelle Dieu son Sauveur. Ce titre dégradant d'esclave que l'apôtre Paul se donnait régulièrement et que Jude s'approprie montre bien que l'un comme l'autre avait compris la signification de la mort-résurrection du Christ et qu'il l'avait accepté comme Sauveur. C'est donc en toute humilité que Jude a choisi de prendre le titre d'esclave de Jésus-Christ plutôt que d'épater les destinataires de sa lettre en leur rappelant qu'il n'était pas n'importe qui, mais le demi-frère du Seigneur. Cependant, il dit être le frère de Jacques, que tous les croyants connaissaient, parce qu'il était le chef de l'église de Jérusalem. Jude est le seul auteur sacré à se présenter en évoquant un lien de parenté avec un autre personnage du Nouveau Testament, mais c'est uniquement pour que ses lecteurs sachent à qui ils ont affaire. Non seulement le style de Jude est très animé, mais il affectionne aussi le rythme produit par des triades. Il y en aurait jusqu'à 18 dans cette petite lettre. Je vais donner quelques exemples. Les plus remarquables se trouvent dans l'introduction. Dans le premier verset, il y a d'une part Jude, serviteur et frère, et d'autre part, il salue ceux que Dieu a appelés, aimés et gardés. Avec la première triade, Jude, serviteur et frère, il se présente. Avec la seconde, appelé, aimé et gardé, il décrit ses lecteurs. Dans la salutation du verset 2, Jude utilise la triade bonté, paix, amour. Au verset 4, il décrit les apostats en portant contre eux trois accusations qui sont « ils n'ont aucun respect pour Dieu », travestissent en débauche la grâce de notre Dieu et renient Jésus-Christ. Plus loin, Jude cite une triade d'apostats qui ont été jugés dans le passé. Le peuple tiré de l'esclavage en Égypte, les anges qui ont abandonné leur demeure et Sodome, Gomorre et les villes voisines. Ensuite, il revient aux hérétiques actuels et leur fait trois reproches. Ils souillent leur propre corps, rejettent l'autorité du Seigneur et insultent les êtres glorieux du ciel. Puis il les compare à une triade de renégats notoires de l'Ancien Testament qui sont Caïn, Balaam et Corée. Ces gens que Jude condamne propageaient une fausse doctrine et avaient un comportement moral déplorable. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils étaient imbuvables, infréquentables et représentaient un poison mortel pour les assemblées qu'ils avaient infiltrées. Pourtant, même le pire des impies a une âme pour laquelle Jésus a donné sa vie. Mais s'il refuse de se repentir et de s'humilier devant Dieu, il n'y a pas d'autre solution que de l'expulser de l'Église.